Accent d'Europe, Catherine Roland.
Ancré dans la peau, ancré dans la vie, sur mon visage, l'esclavage est écrit. Ma mémoire contient...
Bonjour à tous, un bateau démontable et transportable pour porter la mémoire de l'esclavage. C'est l'idée d'une association nantaise pour relater cette histoire longtemps restée taboue en France. Ce bateau un peu particulier, fabriqué en container, sera la réplique d'un négrier du XVIIIe siècle. Il ira de ville en ville pour porter un devoir de mémoire sur la traite négrière, mais aussi pour sensibiliser sur l'esclavage contemporain. Et cette idée a mis des années à voir le jour grâce à l'obstination d'un Martiniquais, un descendant d'esclaves. C'est le reportage de Lise Verbeck.
Cela fait plus de 16 ans que Dieudonné Boutrin réfléchit à un projet qui permettrait d'expliquer de manière pédagogique la traite négrière. Ce Martiniquais d'origine est arrivé dans l'ouest de la France, à Nantes, un peu par hasard, il y a plus de 30 ans. Et c'est là que le déclic a eu lieu, dans cette ville qui était donc le premier port négrier du royaume au XVIIIe siècle. Dieudonné a découvert qu'il était descendant d'esclaves.
Je n'ai pas appris mon histoire de l'esclavage à l'école, donc j'ai appris mes ancêtres sont des Gaulois. Et c'est une fois arrivé à Nantes, puis un compatriote qui m'a accueilli, et c'est là qu'il m'a parlé un petit peu l'histoire de Nantes, qui me ramène à mon histoire. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Et regarder aussi par rapport aux Antilles, chez nous, on sentait qu'il y avait un poids, et c'était très compliqué et difficile à en parler.
À cette époque, dans les années 80, l'histoire des navires nantais qui ont transporté 550 000 esclaves noirs vers les colonies est taboue. Il faut attendre 1992 pour qu'une première grande exposition soit consacrée à la traite des Noirs à Nantes. Depuis, une idée a germé dans l'esprit de Dieudonné, construire un bateau, une réplique d'un négrier.
Je voulais créer vraiment le débat. J'ai voulu créer un bateau, 18e, parce que lorsqu'on regarde le bateau, sans bateau, il n'y avait pas de transport d'hommes. Donc automatiquement, là, le bateau devient la pièce maîtresse du puzzle de l'histoire. Et j'ai voulu vraiment construire un vrai bateau, au moins à cette époque-là, pour rendre hommage à ces hommes, aux 20-15% des captifs qui ne sont jamais arrivés à la destination. Ils ont existé. Et là, on s'est bataillé pendant pratiquement 10 ans où c'était compliqué politiquement. Même aujourd'hui, c'est toujours compliqué. Mais après, j'ai fait marche arrière il y a pratiquement 5 ans de ça. Je suis retourné en Martinique et puis là, j'ai dit, écoutez, je vais proposer autre chose. Je réunis mon équipe et j'ai dit, je veux un bateau montable, démontable.
Le projet est donc de faire un bateau à partir de grands conteneurs. 4 conteneurs pour la cale et 4 autres pour le premier étage. Le premier conteneur a été réalisé et terminé par une entreprise de charpente navale à Noirmoutier.
Il y a un vrai défi technique sur ce projet.
Frédéric Mingret, du chantier des îlots.
L'idée, en fait, étant de le faire itinérant, c'était de pouvoir réaliser l'intérieur d'une coque de bateau à l'intérieur de conteneurs. Ces conteneurs, ensuite, s'assemblent les uns les autres pour donner la longueur du bateau. On a l'impression d'être dans les cales du navire et ensuite il y aura un deuxième étage de container qui permettra de se retrouver au premier pont, là où étaient entassés les esclaves à l'époque. Ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte que dans ces bateaux-là, en fait, les cales qui étaient faites pour les marchandises avaient une hauteur phénoménale pour charger un maximum. Et le sous-pont qui était fait pour les esclaves, à l'époque, les gens avaient même pas de quoi se mettre debout complètement. Ils étaient accroupis ou ils étaient assis, voilà, tout simplement.
Il reste encore 7 conteneurs à réaliser. Ensuite, ils seront habillés de la façade du bateau. Les répliques du gouvernail et de la figure de proue sont réalisées par un chantier d'insertion en Martinique, et l'association de Dieudonné travaille en ce moment sur la scénographie avec un muséographe pour l'intérieur du bateau.
Au premier niveau, on va voir l'organisation, il y aura des plans, il y a les cartes, comment c'était organisé, le business à cette époque. Au deuxième niveau, par contre, là, on rentre dans un système où nous allons voir les conditions de vie, il y aura des figurines, on va avoir des sons, des bruits, comme si on est vraiment à cette époque-là, des claquements de fouet, on sent comme si on ait la sensation de bouger dans la cale. Donc, déjà, lorsqu'on va rentrer à l'intérieur, c'est quelque chose qui va nous prendre par les tripes.
Dans la cale, là où étaient entreposées les marchandises, le visiteur pourra sentir les épices, le café, la cannelle, le rhum, et aussi comprendre les raisons économiques du commerce triangulaire. Mais le projet de Dieudonné ne s'intéresse pas uniquement au passé, il veut aussi faire le lien avec l'esclavage moderne, celui d'aujourd'hui.
Il y aura des films, des livres, des témoignages pour rendre que les gens puissent prendre vraiment conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, l'objectif, c'est aujourd'hui. personne est responsable l'histoire il y a 400 ans. Par contre, nous sommes responsables de l'avenir. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est ça, ce projet. C'est une caisse à outils pour créer le bien vivre ensemble à l'acceptation de l'homme et justement sensibiliser à la dignité de l'homme qui est touché aujourd'hui.
Le premier conteneur réalisé sera exposé à Nantes le 10 mai prochain pour la journée mondiale de commémoration de l'esclavage. Dieudonné espère que le bateau sera achevé en 2022, mais il lui reste encore à trouver des financements car le projet s'élève à 2 600 000 euros.
Et en Belgique hier, le gouvernement a officiellement présenté ses excuses pour les injustices subies par les milliers d'enfants métis nés en Afrique pendant la période coloniale, arrachés à leur mère pour être placés à l'écart de la population. Une repentance en écho de ce qui s'est passé au Parlement européen la semaine dernière. Les eurodéputés ont voté une résolution pour mettre fin aux discriminations envers les personnes euro-africaines sur le continent. Le texte appelle notamment à placer l'esclavage dans les programmes scolaires et à mener des campagnes officielles d'excuses. Laxmilota.
15 millions d'afro-descendants vivent en Europe et sont victimes de discrimination. Le Parlement reconnaît dans ce texte des preuves de ces différences de traitement. Chez les enfants, par exemple, il y a des cas d'écoliers d'origine africaine moins bien notés que leurs autres camarades. Les eurodéputés demandent aux États de prendre des mesures dans les domaines de la justice, de l'éducation, de la santé ou de la politique migratoire. Exemple, les pays qui ont été colonialistes devraient présenter des excuses publiques mais aussi rendre des objets d'art qui ont été volés durant cette période. Le Parlement suggère aussi d'intégrer l'histoire de l'esclavage et du colonialisme de manière formelle dans les programmes scolaires. En matière de justice et de lutte contre le terrorisme, les parlementaires dénoncent les violences policières et les contrôles au faciès. Le président du réseau européen de lutte contre le racisme s'est réjoui de cette résolution. Ce vote est historique. Le Parlement européen montre la voie et envoie un signal aux États membres. La balle est maintenant dans leur camp. Nous avons besoin de plans d'action concrets, ajoute-t-il.
Il y a tout juste 30 ans, la Pologne faisait un pas décisif vers la démocratie. Après 2 mois de négociations, le pouvoir communiste et ses opposants principaux, les membres du syndicat Solidarność, signaient des accords historiques dits de la table ronde. Les premières élections semi-libres allaient enfin se tenir 2 mois plus tard, en juin 89, précipitant ainsi la chute du régime. Mais depuis, des théories complotistes ont surgi, émanant de la droite et de l'extrême droite. Les ultra-conservateurs du PiS accusent ainsi les négociateurs de l'époque d'avoir conclu un accord secret avec les communistes, carrément. Thomas Giraudeau nous appelle de Varsovie.
Et si les contours de la démocratie polonaise avaient été dessinés à Magdalenka, un village en banlieue de Varsovie? Là-bas, plusieurs leaders du syndicat Solidarność, dont Lech Walesa, et des représentants des autorités communistes se sont retrouvés en septembre 88, quelques mois avant le début des grandes négociations de la table ronde. Les recherches historiques sérieuses l'ont prouvé. À Magdalenka, les conversations ont seulement porté sur le cadre des négociations à venir. Pas question d'évoquer la répartition du pouvoir ou la forme des futurs gouvernements. Rien de transcendant donc, mais cela ne colle pas avec la vision de l'histoire promue par le parti au pouvoir à Varsovie, le PiS, et surtout celle de son leader Jarosław Kaczyński. Pour lui, les communistes ont gardé des positions de pouvoir importantes après la chute du régime, ils ont bénéficié de passe-droits et se sont enrichis avec la privatisation de l'économie dans les années 90. Or, Kaczyński a participé aux négociations de la table ronde, il a bien vu que rien de tel n'a été conclu à ce moment-là. Il y a donc forcément eu des discussions, des arrangements secrets auxquels il n'a pas assisté. Le lieu de cette prétendue conspiration est alors tout trouvé, le village de Magdalenka et ses réunions préparatoires aux accords finaux. Jarosław Kaczyński peut donc ainsi accuser son ennemi de toujours, Lech Walesa, d'avoir comploté avec les communistes. Aujourd'hui, à l'occasion des 30 ans des accords de la table ronde, la télévision publique a remis le couvert. Contrôlée par le pouvoir, elle montre la prétendue trahison de Walesa et de ses proches camarades. Ironie de l'histoire, le frère jumeau de Jarosław Kaczyński, Lech, président de la Pologne entre 2005 et 2010 et participant aux négociations de la table ronde, n'a lui jamais cru à cette théorie du complot.
La une de Courrier International, et aujourd'hui c'est avec Ingrid Terwatt. Bonjour Ingrid.
Bonjour Catherine Roland.
Et on commence par la Slovaquie, où une femme fait beaucoup parler d'elle. Mais qui est-elle, Ingrid?
Elle fait beaucoup parler d'elle, c'est Susana Čaputová. Elle vient d'être élue présidente de la République slovaque à 58,4% le 30 mars dernier. Alors, c'est non seulement historique pour son pays, c'est une première, mais aussi pour l'Europe, où seuls 9 des 28 chefs d'État sont des femmes, en comptant donc Susana Čaputová et aussi l'irremplaçable reine d'Angleterre. Soit dit en passant, en France, on attend toujours. Bref, mais qui est cette fameuse Susana Čaputová? Alors, c'est une ancienne avocate, elle a 45 ans. Vous la connaissez peut-être pas, mais en fait, elle a déjà quand même fait un petit peu parler d'elle dans son pays. Et c'est ce que souligne d'ailleurs le journal tchèque Hospodářské noviny, qui a dressé son portrait avant même sa victoire. Et alors ce journal raconte qu'elle a notamment beaucoup milité au niveau local. Elle s'est battue dans une ONG contre l'extension d'une décharge qui entraînait une recrudescence de cancer dans sa ville natale. Ensuite, elle a milité pour défendre les femmes et les enfants battus. Elle a aussi dénoncé un ancien Premier ministre qui avait couvert plusieurs crimes dans les années 90. Tout cela lui a valu notamment de recevoir le prestigieux prix Goldman pour l'environnement en 2016. Mais vraiment, le point de bascule, ça a été pour elle l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak en février 2018. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'entrer en politique. Et pour la presse locale, comme pour la presse étrangère, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à incarner pour son pays et pour l'Europe le renouveau. Alors pourquoi est-ce qu'elle incarne ce renouveau? Eh bien parce qu'elle est libérale et pro-européenne. Parce qu'elle est aussi progressiste. Rappelons qu'elle est divorcée et qu'elle a pris position en faveur de l'adoption par des couples homoparentaux, et ce, dans un pays catholique et conservateur. Aussi parce qu'elle est perçue comme une personnalité à la fois érudite et intègre. Elle a par exemple refusé de dire du mal de ses opposants pendant la campagne. Alors, je voudrais conclure ce petit portrait très élogieux avec une phrase parue dans SME, qui est le principal quotidien slovaque. Pour SME, je cite, « Susana Čaputová incarne l'espoir que certaines valeurs comme la décence n'apparaîtront plus comme une anomalie en politique. » Rien que ça.
Et un vent d'espoir qui semble aussi souffler sur l'Irlande, Ingrid, parce que ça peut paraître surprenant, en plein bourbier d'avant Brexit. Est-ce que ce Brexit pourrait finalement être une bonne nouvelle pour les Irlandais?
Une bonne nouvelle, je ne sais pas, Catherine, mais en tout cas, il semble que le Brexit pourrait peut-être avoir quelques conséquences positives inattendues. C'est en tout cas l'avis de Fergal Keane, qui est un journaliste irlandais renommé et qui a grandi près de Belfast dans les années 70-80. Alors, dans les pages de l'Irish Independent, il raconte comment la guerre entre les unionistes, donc ceux qui voulaient rester dans le Royaume-Uni, et les sécessionnistes, ceux qui étaient en faveur d'une Irlande indépendante, a profondément divisé l'île et ses habitants. À l'époque, il raconte que jamais il n'aurait cru voir une Irlande unifiée de son vivant. Aujourd'hui, il a 58 ans et il a l'espoir soudain de pouvoir vivre cette Irlande réunifiée et la vivre grâce à quoi? Eh bien, grâce au Brexit. Fergal Keane, je le cite, dit « Les effets à long terme du Brexit et les changements démocratiques pourraient créer des circonstances propices à ce qui était autrefois inimaginable. » Alors, bien sûr, le journaliste n'est sûr de rien, mais il enjoint quand même ses concitoyens à d'ores et déjà réfléchir à l'éventualité de cette fameuse Irlande unie. Et là, il se prend à rêver de, je le cite à nouveau, « la fin de la partition des esprits ».
On part maintenant plus au sud, Ingrid, en Espagne et au Portugal. Là, ce n'est pas l'avenir, mais le passé qui préoccupe les journaux, et on peut le dire, ce passé qui enflamme même les esprits.
Oui, tout à fait, Catherine. Alors, depuis le début du mois, les Espagnols et les Portugais se disputent autour de qui a fait le premier tour du monde. Alors, je vous rappelle que cet exploit, que l'on doit à Magellan, un navigateur portugais financé par la couronne espagnole, date tout de même du 20 septembre 1519, c'est-à-dire il y a 500 ans. Alors, pour comprendre cette dispute, il faut revenir un petit peu en arrière. Depuis le début de l'année, le Portugal organise des commémorations en l'honneur de Magellan. Mais alors, en Espagne, ça ne plaît pas du tout. Et le quotidien conservateur espagnol ABC a décidé même d'en faire un vrai combat et a demandé officiellement à l'Académie royale d'histoire d'Espagne d'examiner la question. Alors évidemment, la très sérieuse Académie royale d'histoire d'Espagne a publié un rapport, et ce rapport est très critique vis-à-vis du Portugal. Ce rapport dénonce une tentative de gommer le rôle historique de l'Espagne et met en avant, je cite, « le caractère pleinement et entièrement espagnol du premier tour du monde en bateau ». ABC en a ensuite rajouté une couche en interrogeant plusieurs auteurs et plusieurs historiens ulcérés par ce qu'ils dénoncent comme la malhonnêteté des Portugais qui s'approprieraient une aventure espagnole. Alors les Portugais, évidemment, sont un petit peu outrés de ces attaques. Et en réponse à ABC, le quotidien de Lisbonne au Público a dénoncé un nationalisme agressif et franchement mal placé. Pour au Público, ces attaques, finalement, en disent plus sur l'état de la droite espagnole actuelle, qui serait renfermée sur elle-même, que sur le passé du pays, de l'Espagne ou d'ailleurs même du Portugal. Pour au Público, je cite, « Ce tour du monde appartient à des individus d'origines diverses et variées, et tous ceux qui le souhaitent sont en droit de le commémorer. » Finalement, ce que au Público fait, c'est un plaidoyer pour une mondialisation heureuse et aussi pleine d'espoir.
Oui, l'espoir, on en a bien besoin. Alors, tous ces articles tirés de la presse européenne, on peut les retrouver évidemment dans le courrier de cette semaine. Merci Ingrid, à très bientôt.
Au revoir Catherine.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous racontez aujourd'hui l'histoire d'un artiste italien qui a posé ses valises en Allemagne.
Encore un trajet singulièrement européen aujourd'hui, celui qui a mené le jeune italien Filippo Bonamici à son premier album sous le nom de Filbo Riva. Le point de départ, c'est la banlieue de Rome, où le garçon a passé ses premières années avant de s'installer en Irlande, à Dublin, où il passe son adolescence. Mais c'est à Berlin qu'il se fixe en 2012 pour des études qu'il va vite abandonner au profit de la musique. D'abord en solitaire, sur un premier maxi qui paraît en 2017, avant que l'exercice ne prenne un tour plus collectif au moment de partir en tournée. Une longue série de dates, souvent complètes, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, qui donne à Filbo Riva la forme que l'on découvre aujourd'hui sur ce premier album, Beautiful Sadness, une collection de chansons où le dépit amoureux est décliné en une vaste palette de styles, du R&B aux ballades fiévreuses, en passant par une pop plus enjouée.
I can see nobody else, don't want to live again. Stay here forever in this blue sunken dream. Black and white is turning green, I'd be forever young, never die. It's like the gods above. I'm seeing things I've never seen. Is this lovers in the night, animals old and white, laughing at life, I talk to the lightning man, oh, and it told me not to leave, it's like the gods above, always in love, I live forever.
On se quitte sur les notes de Gorilla de Filbo Riva avec son premier album Beautiful Sadness. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation et à la mise en onde. Il y avait bien entendu Françoise Grelot.